Édouard de Lépine, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve comme d'habitude le jeudi, il faut qu'on le précise. Et en réalité, je suis en train de découvrir, plus on se rencontre, plus il y a des choses à dire.
Ah ben oui, j'espère bien. Oui.
Comment vous allez là?
Bon, ça pourrait aller mieux, mais enfin, bon, ça va en gros. Ça va en gros.
Bon. On va découvrir la période d'aujourd'hui de 1957 à 1971. C'est un nouveau découpage qu'on va réaliser. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez mis cette tranche.
Oui, 1957, parce que la démission de Césaire a lieu en octobre 56, et que la décision de créer le parti progressiste, enfin de créer un nouveau parti, a été prise en novembre 57, c'est-à-dire environ 13 mois plus tard, en novembre 57. Et oui, alors que Césaire, au départ, n'avait pas l'intention de créer un parti quand il a démissionné. Il comptait, bon, reprendre son boulot de prof. Il n'avait absolument pas l'intention de continuer à faire de la politique.
Alors, c'est l'occasion pour nous de parler de cette relation entre Césaire et le Parti communiste. Qu'est-ce qu'il y a précisément à
Alors,
dire
bon,
dans toute cette période?
c'est
Il se
une.
termine par une lettre qui est la lettre à Thorez.
D'abord, la découverte. Bien avant que nous découvrions ça, enfin que moi je le découvre en tout cas, bon, la réalité des pays de l'Est. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que Césaire a été en 53 à Moscou pour la mort de Staline. C'est vrai qu'il a été par la suite en Pologne, il a été en Yougoslavie, il avait déjà été en Yougoslavie d'ailleurs depuis l'époque où il était étudiant. Et que, bon, il était beaucoup mieux informé, à mon avis, que nous ne l'étions, nous, en tout cas comme moi, je l'étais. Moi, à la mort de Staline, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que, bon, il y avait des trotskistes en face qui me faisaient chier, qui vendaient le journal La Vérité, mais moi, je vendais l'humain devant ces citoyens, parce que les ouvriers ne pouvaient pas aller vendre devant l'usine. Bon, fallait pas que les étudiants aillent voir le journal là, et le journal L'Humain annonçant la mort de Staline. Moi, mais je pleurais réellement, je veux dire,
Chaude de larmes.
les larmes aux yeux, c'est pas de la couillonnade. Et bon, les types sont venus nous emmerder, bon, nous traiter de malpropre, etc. Mais.
Et vous, à l'époque, vous avez pleuré pourquoi? Parce que c'était un symbole,
Oui,
c'était
pour
toute
nous, moi,
l'histoire. Expliquez-nous les raisons de votre chagrin.
c'était vraiment le père du socialisme, c'était le continuateur de Lénine, j'étais persuadé de ça. Mais à quelque chose, malheur est bon. Le fait que les types nous ont attaqués assez violemment m'a amené à aller les chercher pour essayer de les emmerder et d'aller dans leur librairie. Ils avaient une petite librairie du côté de l'Institut de Géo, je ne me rappelle plus le nom à côté, à côté de l'Institut de Géo. Je suis allé là, j'ai pris des bouquins et j'ai pris. C'est comme ça que j'ai découvert, effectivement, j'ai commencé à découvrir qui était Staline et le stalinisme, ce que c'était, quoi, le stalinisme. Mais bon, au début, moi, j'étais un militant stal, un militant
Obéissant.
obéissant, persuadé que, bon, sinon, que Staline, c'est le petit père des peuples, mais enfin, que bon, l'Union soviétique, c'était le pays de rêve, enfin, le pays pour des travailleurs, pour libérer les travailleurs et les colonies.
Ce qui veut dire que vous n'avez pas compris la lettre à Césaire lorsqu'elle a été
Non,
faite. Elle est.
mais la lettre à Césaire, c'est venu 3 ans plus tard, en 56. Ouais, entre 53 et 56, vraiment, je me suis mis à étudier ça sérieusement. Et bon, c'est comme ça que j'ai découvert au fur et à mesure. Et bon, les histoires à l'intérieur du parti, les histoires sur la guerre d'Algérie au moment où ça a éclaté en 54, les histoires sur bon, Madagascar, sur l'histoire de l'attitude du Parti communiste en Algérie, tout ça, bon, ça a complètement bouleversé. Bon, à l'époque, tout ce que je croyais savoir sur l'attitude des communistes et de la libération nationale des peuples.
Mais vous demeurez communiste tout de même.
Mais je demeure communiste tout de même, enfin je crois être communiste. Bon, je sais qu'à l'époque, j'étais, non seulement j'étais un militant, mais j'étais responsable des étudiants communistes de Martinique, ça s'appelait des groupes de langue. Et on se réunissait assez régulièrement, à la rue Saint-Georges, qui était le siège de la section coloniale du PCF, à la rue Saint-Georges à Paris. Et bon, nous étions persuadés on avait peut-être des désaccords avec le PCF, mais nous croyons qu'il y avait des désaccords beaucoup plus graves pour ce qui concerne l'Algérie que pour ce qui concerne la Martinique, par exemple, ou ce qui concerne la Guadeloupe. Mais c'est vrai que c'est à partir de 1954, 1956, peut-être notamment à partir de 1954, c'est-à-dire de la guerre d'Algérie, que ça a commencé, quoi, en novembre 1954.
Mais ça veut dire quoi,
oui,
être communiste à ce moment-là?
Ah non, pour nous être communiste, c'est d'abord être pour les travailleurs, d'une manière générale, être pour les travailleurs. Pour ce qui concerne les communistes coloniaux, être communiste, ça veut dire être pour la libération nationale et pour l'indépendance de son pays. Bon, alors, bon, nous, on n'était pas, on ne connaissait pas la différence, enfin, plus exactement, on voyait pas la différence entre autonomie, indépendance, etc. En tout cas, à l'époque, moi, en 64, bon, moi, je pensais à la libération nationale, c'est l'indépendance, et puis c'est tout. Hein, mais je ne faisais pas la distinction. Bon, mais enfin, on avait des divergences avec les camarades du PCF sur cette question-là. Bon, c'est pas pour des oiseaux, mais enfin quand même, par rapport aux camarades algériens, aux camarades tunisiens, aux camarades marocains, aux camarades africains, sénégalais, ivoiriens, à l'époque, je ne me rappelle plus tous les groupes qu'il y avait, mais qui se réunissaient le jeudi après-midi. En général, on avait une réunion à la rue Saint-Georges, jeudi après-midi, des responsables des différents groupes de langue, c'est-à-dire des sections de communistes des pays, des communistes français, puisque nous étions à l'intérieur du Parti communiste français, mais en même temps, mais nous n'avions pas le droit d'avoir d'attache avec nos camarades communistes, enfin de la Martinique, mais qui étaient des communistes français aussi. Et il n'y avait pas de Parti communiste martiniquais à l'époque, c'était une fédération. C'est une fédération. Mais nous n'avions pas le droit d'avoir de contact avec eux.
Mais comment vous arrivez à expliquer ce glissement idéologique entre la lutte des classes et la lutte pour la reconnaissance de l'identité d'un peuple et vers le nationalisme?
Ça m'était complètement étranger. Je récitais les thèses de Lénine ou d'une manière générale de l'international social communiste de 19 sans rien comprendre, en imaginant que bon, pour nous il n'y avait pas de problème, et nous avons mis du temps à comprendre ça. Je veux dire que c'est à partir de 55 seulement, à partir de la 11e conférence fédérale du parti, quand la Fédération communiste de Martinique, en 1955, a refusé de suivre les positions que pouvait avoir Césaire, par exemple, sur la question nationale, que nous avons commencé à comprendre, c'est-à-dire en août 1955.
Mais ça avait déjà un petit peu commencé avant, avec la différence que Césaire avait sur sa vision de la départementalisation et de l'assimilation.
Oui, évidemment, mais ça n'a pas... Ça se traduisait par des mots d'ordre ambigus, le fameux mot d'ordre pour l'égalité des droits, etc., tout ce qui a été exprimé par la 11e conférence fédérale. D'ailleurs, quand Césaire, en 1955, en décembre 1955, il y a eu la dissolution le gouvernement Edgar Faure de la Chambre de l'Assemblée nationale, il y a eu de nouvelles élections le 2 décembre. La dissolution a été prononcée le 2 décembre, c'est une date significative en plus, 2 décembre. Nous avons interprété ça comme une chance de pouvoir enfin poser le problème national. Nous avons cru ça. Bon, quand Césaire a refusé de se présenter, si on ne changeait pas le mot d'ordre de la 11e Conférence fédérale qui s'était tenue en août 1955, bon, nous avons évidemment sauté de joie. Je me rappelle, le premier, c'était un numéro, je ne me rappelle pas la date exacte, mais ça doit être le premier numéro de jeudi, du premier jeudi de décembre 1955, quand nous avons reçu ça à Paris. Bon, et j'ai porté ça triomphalement à la prochaine réunion qu'il y avait le jeudi suivant à la rue Saint-Georges. On avait une réunion avec un camarade qui était un camarade qui était très bien, qui était bon, il s'appelle Mignot, Élie Mignot. Je lui ai porté le journal, je lui ai dit bon, je passais pour trotskiste, pour nationaliste, etc. Je lui ai dit bon, au type. Bon, je vais lui montrer, il y a des nationalistes et des trotskistes à la Fédé de la Martinique aussi, puisque à la Fédé, on demande aussi une participation des Martiniquais à la gestion de leurs propres affaires. Mais nous n'avions rien compris.
Et les dirigeants du Parti communiste français, ils ont compris un instant ou pas cette idée-là? Est-ce qu'ils sont restés malgré tout, disons, colonialistes?
Ils nous traitaient vraiment comme on traite des enfants, des petits bonhommes emmerdeurs qui viennent les emmerder avec des questions qui ne se posent pas, parce qu'il y avait
pas question de se défaire d'une colonie, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, il y avait des choses beaucoup plus importantes que la libération nationale de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, etc. Et bon, quand Césaire a refusé, ils ont fini quand même changer. Et ils ont décidé de prendre un autre mot d'ordre, celui qui avait été adopté par la conférence fédérale. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie quand même. Il y a une conférence fédérale qui prend une décision en août. On oublie cette décision en décembre et on adopte un nouveau mot d'ordre pour une plus grande participation des Martiniquais à la gestion de leurs propres affaires. C'est-à-dire que, bon, ils sont venus sur les positions que Césaire défendait.
Alors, pourquoi ?
Non, probablement parce qu'il n'avait pas le choix, parce que je ne crois pas qu'on aurait pu faire élire un autre député que Césaire, si Césaire n'avait pas présenté la candidature. Donc ils ont cédé à la pression de Césaire. Et puis, la brochure est parue, je vous ai montré cette brochure, bon, qui est parue bien après d'ailleurs, bien après les élections, c'est paru je crois au début de la fin janvier, début février 1956. Mais entre-temps, il y a eu les élections et Césaire les a gagnées. Très largement, je crois qu'il y a...
Oui, donc ça veut dire qu'après avoir fait bouger le mot d'ordre, Césaire est quand même un élu communiste.
Césaire est un élu communiste, mais bon, mais c'est une situation un peu particulière, c'est un élu communiste, c'est-à-dire, il est, bon, il est élu du Parti communiste français, mais bon, quand le Parti communiste français, quand il y a un vote à l'Assemblée nationale, il vote avec le Parti communiste français, il n'est pas apparenté.
Il faut pas oublier qu'il est député.
Il est député du Parti communiste français. Donc, quand en 1956, les communistes ont voté, c'est-à-dire deux mois après les élections, et ils votent les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet, qui avait été élu pour faire la paix en Algérie, et qui continue de faire la guerre, qui aggrave la guerre en Algérie contre les nationalistes algériens. Bon. J'ai su par la suite, d'ailleurs, pas par Césaire, mais quand il avait pleuré de rage, tout en ayant voté, parce qu'il était discipliné, il avait voté ça, les votes de pouvoir spéciaux, le vote des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet. Bon, Césaire, le premier truc, le premier accrochage avec les communistes, c'est en mars 1956.
Alors, mais, est-ce que c'est toute cette période-là qui explique qu'à un moment donné, il va faire cette lettre à Thorez, ou bien est-ce que c'est une information particulière qu'il a qui fait que finalement il profite pour se tirer,
quoi. Non, il y a des circonstances. Il y a le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique qui se tient en février 1956. Bon, on commence à avoir les nouvelles pendant tout très longtemps. Bon, ceux qui étaient là-bas peut-être pouvaient savoir, mais c'est à partir de peut-être avril, mai, qu'on commence à savoir ce qui s'est passé vraiment à ce 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, où il y a eu un rapport qu'on appelle le rapport Khrouchtchev, qui est le secrétaire général du parti, et qui dénonçait les crimes de Staline. C'était la première fois que ça se faisait. un dirigeant du Parti communiste au 20e congrès du Parti communiste en 1956 dénonce des crimes qui s'étaient produits depuis les années 20, surtout les années 30. Hein. Bon, c'était un truc extraordinaire, on ne savait pas. Et bon, quand le journal Le Monde, parce que c'est pas dans l'humain qu'on a, dans l'humanité, le journal du Parti communiste français qu'on a appris ça, mais dans le journal, dans Le Monde, a commencé à publier des réalités, quoi. Ce rapport. Bon, c'était vraiment un petit peu le bordel, un petit peu perdu. Bon, alors ça ne veut pas dire que Césaire a été tout de suite convaincu et que bon. Il avait déjà ses propres idées sur ces questions-là, mais malgré tout, je crois que ça fait un gros coup. Alors, on a beaucoup bavardé sur le fait qu'il a rencontré Maurice Thorez au mois de septembre ou au début du mois d'octobre.
Il l'a rencontré personnellement
et est invité.
Alors, on rappelle quand même que Maurice Thorez, c'est le patron du Parti communiste français.
Du Parti communiste français, qui avait été malade, qui a été longtemps soigné en Union soviétique, mais qui est revenu en 1955 ou 1956, en France. Et bon, il invite Césaire à venir le voir. Bon, et César a essayé de discuter. Ils ont discuté de n'importe quoi, sauf du congrès, du 20e congrès du PCUS, du Parti communiste de l'Union soviétique. Et bon, il ne lui a jamais parlé de ça.
Alors, mais fort de ce que César apprend, il décide de faire ce courrier et puis de couper les ponts. Est-ce que c'est lié aussi, est-ce que cette coupure est liée à sa relation avec la Fédération communiste de la Martinique?
Oui, moins, je pense. Il y avait des problèmes, sans doute, à la direction du Parti communiste, à la direction de la Fédé. Bon, je n'ai pas particulièrement étudié ces questions-là, enfin, bon, je fais un petit travail rapide dessus, mais bon. Mais c'était essentiellement les problèmes avec le PCF, le Parti communiste français, la direction du Parti communiste français, bon, sur la question de la poésie nationale. Bon, Aragon prétendait dicter à tous les intellectuels, en particulier aux poètes, ce qu'ils devaient, la forme que devait revêtir leur poème. Et je sais qu'un copain qu'on connaissait un peu, mais il était un peu plus âgé que nous, mais enfin, qui s'appelle René Depestre, qui était un grand poète. Pas un grand poète à l'époque, il était peut-être pas encore un grand poète, mais un poète haïtien que César aimait beaucoup. Et il y a eu une polémique assez dure à l'époque. Depestre avait déclaré qu'il était d'accord avec Aragon, et César lui avait envoyé une lettre, enfin, lui avait fait un poème, le poème à René Depestre. Que le poème était bien ou mal sous ses gonds, foutant, laisse dire Aragon, c'est une nuit de scène et je me rappelle comme Yves du chant dément de Bookman accouchant au pays au forceps de l'orage. C'est-à-dire, César connaissait bien Haïti. Il connaissait bien Haïti. Il n'avait pas encore écrit tout son ouverture, ni le roi Christophe. Mais il avait été en Haïti pendant 4-5 mois. En Haïti entre juin 44 et décembre 44. C'est-à-dire, c'était.
Dans le cadre d'une mission, il faut le dire.
C'était en tout cas. Ouais, c'était une chose extraordinaire. Il a découvert l'Afrique en Haïti. C'est vrai. Et je crois que ça a beaucoup. C'est parce qu'il a créé la négritude, parce que la négritude, c'est aussi le cahier. Et ce cahier de retour au pays natal, c'est aussi l'étudiant noir, etc. Mais enfin, je crois que ce voyage en Haïti, ça a certainement largement contribué à la formation, à la précision de son idéologie, et en particulier à ses rapports avec l'Afrique. Bon, alors, ça s'est arrangé par la suite. On a vu la dernière fois ses rapports avec Senghor, mais à partir de 45-50, il commence à rencontrer les autres. Notamment la présence africaine, le journal de présence africaine, etc. Bon, et toujours juste avant la rupture avec le Parti communiste, la lettre à Maurice Thorez, il dit en août 1956, le premier congrès des intellectuels et artistes noirs qui se tient à Sorbonne, à Paris. Et bon, c'est un moment extrêmement important de la vie de Césaire, bon, où il apparaît vraiment. Bon, il était certainement déjà connu hein, par la revue Tropique, etc., mais il apparaît comme un des grands dirigeants nègres. Bon, il y a tout ça. Et puis, bon, tout ce qui se passe à l'époque, la guerre d'Algérie qui est en train de s'aggraver, vraiment, bon, ça devient invivable. Ça devient invivable. Et je sais que quand Césaire décide de rompre avec l'EPC en octobre 1956, bon, on a raconté beaucoup de choses, de conneries. Sa trahison de Césaire, enfin, qui est devenue subitement une bête noire. Mais enfin, bon, les types faisaient semblant, enfin, pas faisaient semblant, parce que, en fait, ils ignoraient beaucoup. En fait, on ne savait pas grand-chose. À la Martinique, en tout cas, la direction, me semble-t-il, la direction du Parti communiste de France, la direction de la Fédération communiste de la Martinique, n'était vraiment pas au courant de ce qui se passait, à mon avis. N'était pas au courant.
D'autant que à cette époque, vous, Édouard de Lépine, nous sommes vers les années, disons, 56. Vous avez à peu près 23 ans.
Oui.
Et 24 ans. Et vous êtes carrément aussi au Parti communiste, c'est-à-dire
mais
que
je suis à Parti communiste
vous êtes, vous êtes, oui, vous êtes.
J'ai toujours été au Parti.
Oui, non, mais enfin, je veux dire, vous commencez à.
Oui, on a avoir
un peu de.
Des petites engueulades avec les camarades français, avec la rue Saint-Georges en particulier, où les types avaient tendance à nous traiter un petit peu n'importe comment. Bon, je sais qu'avec un copain, on va lui rendre un hommage ce samedi-là. J'ai malheureusement pas eu le temps d'envoyer un message. Qui s'appelle Jacques Adélaïde Merland, qui était à l'époque étudiant communiste. Nous l'avons littéralement séquestré à la rue Saint-Georges, dans un hôtel de la rue Saint-Georges, la rue Lafayette, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Nous l'avons du boulevard, j'oublie le nom. Mais enfin. Nous avons séquestré le délégué à une conférence qui devait se tenir à Berlin. Et nous avons séquestré, nous sommes restés là, puis il n'y avait plus de métro, donc on a dû rester dans l'hôtel. Et, on a discuté pendant une nuit avec lui pour essayer de le convaincre qu'il fallait poser la question nationale, ce qu'il a d'ailleurs essayé de faire, puisque le congrès s'est tenu, le congrès fédéral, d'août 55 s'est tenu un petit peu après cette conférence fédérale, après cette réunion à Berlin, mais sans beaucoup de succès. Il y avait peut-être deux ou trois types qui ont suivi.
Mais sur cette question nationale,
oui.
Césaire, il en pense quoi?
Ah ben évidemment, Césaire, c'est lui qui a révélé ça. Depuis plusieurs années déjà. Hein. Bon, il avait dans un discours notamment de 49. Au moment où on a un petit peu bouleversé les conditions des élections cantonales, hein, où on a Fort-de-France a eu quelque chose comme 4 conseillers généraux, alors que c'est une ville de 60 000 habitants, ou des trucs comme ça, et puis, alors que Fonsaint-Denis, ou des petites communes, Marigot était avec Grand-Rivière, Fonsaint-Denis avec Mont-Nevers, avec Saint-Pierre, Mont-Nevers avec Carbet. C'est un scandale quand même de mettre quatre conseillers généraux pour une ville de 60 000 habitants, plus de 60 000 habitants d'ailleurs à l'époque probablement. Et il avait dit si vous continuez, enfin dans son discours de 49, il a dit si vous continuez à pratiquer sur ce que l'on appelle la politique d'assimilation, la politique de discrimination que vous êtes en train de développer, vous allez faire naître à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion un sentiment qui n'y existe pas aujourd'hui, le sentiment national martiniquais, guadeloupéen, réunionnais, guyanais, etc. Bon, vous aurez la responsabilité. Je crois que c'est la première fois qu'il évoque la question du mouvement national, le sentiment national. dans une de son texte, c'est en 49.
Mais vous écoutez, il fait une différence entre nationaliste et indépendantiste alors.
Ah ben oui, non, à l'époque, enfin, en tout cas, je ne connais pas d'indépendantiste martiniquais à l'époque. Je ne crois pas. En 1956, en tout cas, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il y a pas, je ne connais pas d'indépendantiste. Peut-être qu'il y en a, mais je ne connais pas.
D'accord. Alors, Édouard de Lépine, nous continuons d'avancer. Nous rappelons pour ceux qui prennent l'écoute en ce moment que nous faisons une série d'interviews avec vous. Pourquoi ? Parce que vous avez passé pratiquement 20 années de votre vie à travailler sur les écrits de Césaire. Vous avez compilé plus de 460 textes que vous avez rassemblés dans différents ouvrages. Et vous êtes en train de faire, disons, le dernier pas, puisque vous allez encore en éditer deux. Qui vont sur la dernière.
Et devrait paraître.
Voilà. Alors nous profitons de toute cette période pour à la fois non pas comparer votre vie à celle de Césaire, c'est pas ça, mais à étudier Césaire.
Oui.
Avec une progression de ce que vous, quand vous grandissez dans cette même période, quoi. C'est-à-dire de cheminement de quelqu'un qui, à un moment donné, rencontre d'abord les idées de Césaire, le rencontre lui, et va faire de la politique avec lui. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est une espèce de le Édouard de Lépine réalité, hein, que nous faisons, mais que nous faisons à travers un personnage tout à fait particulier.
C'est vrai que c'est à partir de gens... En 52-53, que j'ai commencé vraiment à réfléchir sur ces questions-là, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Quoi. Bon, je suis à la jeunesse communiste ici, mais enfin...
Petitement, on va dire.
Hein?
Petitement.
Oui.
Jeune lycéen.
13-14 ans.
Oui, c'est ça.
13-14 ans. Ouais.
Il faut rappeler que cette même année, donc, nous sommes le 23 mars 1958, il y a un événement très important pour Césaire, qui est la création du Parti progressiste martiniquais. Alors, c'est quoi l'histoire de cette création de parti ?
Au départ, bon, quand Césaire a démissionné du parti, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, pratiquement tous les jours d'ailleurs, et je l'ai rencontré souvent avec Philippe Duval, qui était le maire de Saint-Esprit en congé à l'époque à la Martinique. Et vraiment, je pensais qu'il créerait un parti communiste martiniquais. Mais ce n'était pas apparemment de son esprit. Bon, j'ai l'impression que Césaire, quand il a démissionné, il a envisagé de partir simplement. Mais on l'a traité de tellement de traître, de salopard, littéralement de criminel, de trahison.
Et il vit ça comment ? Il est meurtri ?
Très mal. Il a vécu ça très mal. Je peux vous dire ça parce que j'ai vu ça. Je vous dis que je l'ai rencontré souvent entre, disons, la parution de l'extrait de la lettre à Maurice Thorez dans le journal France Observateur. Hein, c'était un jeudi, me semble-t-il. Bon, j'ai rencontré à peu près 4-5 fois, minimum 4 ou 5 fois. Avec Fitte, parce qu'il m'avait envoyé chercher Fitte, qui était en congé administratif en France. Et nous l'avons accompagné notamment la veille de son retour à la Martinique. C'était un dimanche, peut-être autour du 17 au 18 novembre 1956, c'est-à-dire environ 22 jours après la lettre à Maurice Thorez. Et c'était un truc assez incroyable, parce qu'il y avait un grand écrivain français qui s'appelle Hubert Juin, qui présentait un livre sur Césaire, précisément un grand poète noir. Et bon, nous étions très peu de nègres, là, finalement. Très peu de nègres.
Et en Martinique ?
En Martinique, je suis venu quelques jours plus tard.
Oui, mais en Martinique, c'est perçu comment ?
À Fort-de-France, oui. C'est reçu, semble-t-il, avec beaucoup de chaleur, la manifestation du 22 novembre, l'arrivée de Césaire d'abord à Fort-de-France, à son retour, ça a été un truc prodigieux depuis l'aéroport.
Les gens sont au courant qu'il a fait ce courrier ? Les gens Martinique? Par quel moyen? Par quel moyen?
Le Parti communiste, il faut dire que le Parti communiste, de ce point de vue, n'a pas agi comme le Parti communiste en général. Quand on faisait une lettre qui était une lettre de 7 ou 8 pages, on mettait 4 lignes d'un journal. Le Parti communiste a publié intégralement la lettre de Césaire à Maurice Thorez, en deux numéros, me semble-t-il. Et il a publié intégralement le numéro, c'est-à-dire de A à Z, sans rien enlever.
Pourquoi?
C'était une chose assez nouvelle. Enfin, en tout cas, dans l'histoire des partis communistes, c'était une chose assez nouvelle. Moi, j'ai beaucoup apprécié à l'époque, d'ailleurs. Même si j'étais véritablement enragé de voir comment on traitait Césaire dans le journal.
Est-ce que c'est pas une manière de dire aussi, regardez ce dont il est capable, quels sont les mots qu'il dit, écoutez, parce qu'on peut aussi présenter les choses avec la légende qu'il faut, quoi.
Accompagné d'une série d'articles, mais vraiment odieux.
Oui, c'est ça.
J'ai la collection complète ici des journaux de cette époque-là, de pratiquement du 1er novembre.
Mais les communistes martiniquais eux-mêmes, comment ils...
Mais les communistes martiniquais, ils sont communistes français. Il n'y a pas de communistes martiniquais.
Oui, il n'y a pas encore le communisme
martiniquais. Non, ils ont créé ça en septembre. D'accord.
Mais eux, quand Césaire arrive,
Non. Quand Césaire arrive, c'est très divisé, hein, en particulier à Fort-de-France. Il y a des gens qui sont, évidemment, qui sont fidèles, qui estiment être fidèles à la Fédération. Et qui traite Césaire de tous les noms, mais il y a aussi des gens qui avaient des problèmes à l'intérieur du parti et qui accueillent Césaire comme un sauveur.
C'est ça. Mais lorsqu'il monte ce parti en mars, le 23 mars 1958, il met quoi en place? Une machine idéologique ou une machine politique?
C'est à la fois l'un et l'autre. Je veux dire, enfin, en tout cas, c'est la première fois qu'on crée un parti. Disons, d'inspiration nationaliste à la Martinique, d'inspiration nationaliste. Et au départ,
c'est le premier parti.
C'est le premier parti nationaliste martiniquais qui a été créé. C'est vrai qu'au départ, les gens ne sont peut-être pas très bien compris. Pas tout... D'ailleurs, il y a pendant une certaine période, au moins 3-4 ans, de confusion. On ne sait pas très bien. Il y a des gens qui sont des gens de gauche, ou en tout cas qui passent pour être des gens de gauche, Émile Maurice, le futur maire, conseiller général, il sera élu aussitôt après la constitution du parti, d'ailleurs, en avril 58, conseiller général de Saint-Joseph.
Vous nous dites bien Émile Maurice.
Émile Maurice, le futur président. Il est élu comme conseiller général socialiste et il va laisser le parti en 62, à peu près.
Et à partir de quel moment on commence avec... à partir de quel moment, ou du moins, qu'est-ce qui est à l'origine justement de la séparation de ces premières personnes qui sont venues ont créé le Parti progressiste?
C'est vrai, c'est une période très difficile. Il y a d'abord une période très très difficile, la période de décembre 59, où il y a une crise terrible à la Martinique. Ensuite, il y a toute une année 60 qui est une année extrêmement difficile. Il y a 1961 avec les grèves. Du Lamantin avec trois morts au Lamantin.
Et avec le discours des trois tombes.
Le discours des trois tombes de Gratian en mars 61.
Vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, il y a trois morts. Alors, c'est vrai qu'on a tiré dessus, la grève durait depuis plusieurs jours. Hein. La grève, on tire sur. Ça n'était pas arrivé depuis pratiquement 48. Depuis 1948, il y avait eu des blessés en 1951 à la Chassin, mais enfin, les derniers morts, si vous voulez, de l'histoire à la Martinique, c'était les morts de 1948, c'était les morts du Carbé, ça a été très, très mal vécu. Les parlementaires, enfin les parlementaires, sénateurs, députés, et puis quelques personnes qui n'étaient pas ni sénateurs ni députés, d'ailleurs, je pense à Camille Petit, qui était maire à l'époque, maire de Grande-Rivière, me semble-t-il, hein, à cette époque-là. Ils ont fait une lettre marquant leur attachement à la France, leur dévouement, enfin, vraiment. C'était un truc assez horrible. Hein, et comme s'ils avaient refusé de signer cette lettre-là. Bon, il était le seul des députés de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion à ne pas signer ça. Bon, il apparaissait comme un pestiféré. Bon.
Il continue de s'isoler. Mais c'est quoi? C'est pour sa liberté. Il s'isole pourquoi? C'est pour sa liberté de penser? C'est pour
Non,
être
absolument.
fidèle
La
à...
liberté de penser est vraiment. Bon, le refus aussi de se considérer comme un nègre sur lequel on apporte un vernis noir. C'est vrai, ils sont profondément martiniquais. Bon, mais ça, il a commencé à le développer avant la lettre à Maurice Thorez. Hein, et en 1955, hein, il y a une introduction, dans son introduction, les Antilles décolonisées d'un grand écrivain, Daniel Guérin. Il a exprimé ces idées-là très clairement également. Pour Césaire, je ne crois pas qu'il y ait de problème. En réalité, moi, j'ai tenu à mettre en tête des écrits politiques de Césaire, ces écrits de 1935, c'est-à-dire qu'il n'a pas 22 ans, il a 21 ans et demi, quand il écrit à Jeunesse noire et assimilation, les deux premiers numéros de l'étudiant noir. Bon, et Césaire n'a pas varié d'un iota. Par rapport à cette position-là, c'est pas parce qu'il demande l'assimilation qu'il va abandonner le mot d'ailleurs très rapidement pour parler de départementalisation et non pas comme assimilation, c'est-à-dire devenir un autre. Hein. La question de l'identité, c'est vraiment la question fondamentale dans Césaire. C'est la question fondamentale, quelle que soit la période, quelle que soit la période. Pendant, à mon avis, Césaire n'a pas varié de ça entre 1935 et 2007, 2008.
Même si on va rentrer quand même dans une période de confusion, parce qu'entre le moment où il a ses amis comme Émile Maurice à ses côtés et le moment où celui-ci, pratiquement 3 ans après, d'après ce que j'ai bien compris, qu'il partira du Parti progressiste,
Il laisse le parti.
entre 1900, disons, 1960, 1961, même 1962, c'est une grande période de confusion.
C'est une période de confusion, c'est vrai. C'est une période de confusion. Le journal, d'ailleurs, encore le journal, sont très clairs. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir consulter une collection à peu près complète du progressiste de 1958, du 4 au 5 avril 1958, à peu près, je crois, peut-être 59. Ou fin 59, décembre 59 ou novembre 59, puis après, c'est paru très irrégulièrement en 60, 61, 62. Césaire n'a jamais varié sur ça. La question de la revendication de l'identité martiniquaise, de la revendication de la personnalité collective du peuple martiniquais, et ça, je crois que c'est ça qui est l'idée fondamentale.
Bon,
En même temps,
alors, oui, Édouard de Lépine, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qui c'est qui le suit dans cette affaire d'idéologie sur la création d'un peuple martiniquais et compagnie, et qui ne le suit pas. Les communistes, vous êtes, vous, à cette époque, vous prenez du galon, puisque
non,
vous avez...
enfin, pas tout de suite. Hein.
Parce que vous êtes...
J'ai pris du galon parce que après 63, après 63, enfin après 63, après
62?
62, après 62.
Oui, mais nous sommes dans toute cette période de confusion. En 62, vous êtes membre de la direction du Parti
Non,
communiste.
je suis membre de la direction à partir de 63.
C'est à partir de 63.
À partir de décembre 63. Mais enfin, c'est vrai que, bon, quand les premiers types de LOGEM sont arrêtés en mars-avril 63, je remplace Guy Dufond à la direction du Parti communiste, de la jeunesse communiste de la Martinique, sans aucun problème.
Parce que dans cette époque-là, Césaire, il n'a pas encore, même s'il a déjà posé la question de la négritude depuis longtemps, pendant sa période étudiante, la question de l'autonomie.
Oui, mais y compris, mais la question de l'autonomie, elle est posée en 58. Elle est posée en 58, la question. Et quand Césaire.
En ces termes, autonomie.
Bon, oui, quand Césaire fait le premier congrès du parti en 1958, en mars 58, il parle de l'autonomie, il parle précisément de l'opposition. Alors, c'est vrai que là-dedans, il y a les contrariétés de l'autonomie, les contrariétés de. Mais enfin, il y a aussi davantage les bonnes choses, les aspects positifs de l'autonomie plutôt que les contrariétés de l'autonomie. Et il prend comme exemple l'exemple des Italiens. Il parle de l'exemple, bon, la République italienne est une, et la Repubblica una. Et en même temps, la République reconnaît l'existence de régions et reconnaît à ces régions un pouvoir autonome. En Italie, la constitution italienne est très nettement
Il est déjà sur un modèle presque fédéral.
antérieure. C'est déjà sur un modèle fédéral. Et pendant très longtemps d'ailleurs, la formule sera dans une République fédérée. Une République fédérée, c'est une conception. Bon. Alors, il y a non seulement l'exemple de l'Italie, mais l'exemple de l'Allemagne aussi, l'exemple, y compris à l'époque de l'Angleterre, puis bon, l'exemple du Brésil. Il y a des régions dans ces États-là qui sont des régions ayant la possibilité de faire des lois elles-mêmes, de se diriger.
D'adapter.
Non, pas de faire les lois. C'est pas, il
Des
faut
lois
pas,
organiques, carrément, quoi.
oui, il faut pas confondre ça. Peut-être y a-t-il une tendance aujourd'hui à confondre le fait de l'autonomie avec les lois qui sont autorisées, enfin les lois, les adaptations, les trucs comme ça. Non,
Les
l'autonomie,
habilitations, ce qu'on
c'est
appelle le. Oui.
la responsabilité de faire la loi chez soi. Sur ces questions-là, ça n'empêche pas qu'on se mette d'accord sur. Avec la fédération, bon, je crois pas que Césaire peut être de n'importe quoi, sauf d'être anti-français ou d'être contre la République française, non. Il pense que la Martinique peut être autonome dans le cadre d'une République fédérée.
C'est ça. Et il y croit jusqu'à ce qu'il y ait aussi un événement qui va un peu le décevoir, c'est la visite de De Gaulle en Martinique, quoi.
Oui, la visite de De Gaulle en
Alors,
64, c'est vraiment
il lui fait un courrier, enfin un discours,
oui, un discours.
qui, aussi amusant que ça puisse paraître, puisque vous m'avez fait le relire il y a de cela quelques minutes, qui repose les problèmes que nous avons aujourd'hui, hein, c'est-à-dire celui du départ d'une partie de la jeunesse, celui de la question de, comment ça s'appelle, la question du chômage, sur la question du développement économique. Et Césaire, il s'adresse à De Gaulle sur ces questions, et De Gaulle lui dit, lui fait une fin de non-recevoir, parce que De Gaulle
Oui,
écoute
c'est vrai.
d'autres personnes qui, très probablement, ont dû savonner le terrain à Césaire, quoi.
Oui et non, oui et non, parce que encore une fois, je suis pas gaulliste, mais c'est vrai que j'ai écrit dans le temps une pièce, une petite pièce de théâtre, je vais publier un de ces jours, où il y a un jeune Martiniquais gaulliste, indépendantiste en fondant sur les idées du général de Gaulle. Et ça, c'est un. Bon, j'ai dû dire, c'est dans ma chambre, ça. C'est un livre, bon, probablement à une époque. Bon, je. Bon, pas, j'étais pas spécialement gaulliste ou aimant de Gaulle, non, pas du tout. Pas du tout, mais je pense que c'est une lecture qui est fondamentale, à mon avis. Il faut lire ça pour comprendre la politique de de Gaulle. Il faut lire ça pour comprendre ça.
Et vous disiez à l'époque, si De Gaulle il est nationaliste, moi je suis nationaliste.
Mais oui.
S'il est pour le développement de son pays, moi je suis pour le
Mais
développement de
oui,
son
c'est ça.
pays. Et à ce titre, si il veut pas se laisser commander par un autre pays, moi aussi je suis gaulliste. C'est une manière de dire,
Oui, enfin, bon,
en tant que Martiniquais, je suis un gaulliste Martiniquais, quoi.
voilà. Enfin, en tout cas, l'un des héros, ou le héros de cette pièce que j'avais écrite, je pense, dans les années 60, 64, 65, peut-être à peu près.
Une vraie satire, en fait.
Oui. C'est un jeune gaulliste indépendantiste. C'est un jeune gaulliste indépendantiste. Et qui ne comprend pas les gens qui sont comme Petit, comme Camille Petit, même plus tard aussi Pierrot. Pierrot Petit, ou des trucs comme ça. Et c'est d'ailleurs écrit beaucoup plus tard. Un truc en 90, quand j'étais maire du Robert, j'ai décidé de fêter le 18 juin au Robert.
C'est la provocation.
Oui, c'était pas de la provocation, mais bon, c'était peut-être pas très gentil pour les camarades gaullistes, enfin les gaullistes de la Martinique. Mais enfin, je me disais, quoi. Bon, ou bien ils viennent. Et ils vont entendre ce que nous avons à dire là-dessus, ou bien ils ne viennent pas et nous allons les dénoncer. Comment ne pas admirer le 18 juin, comment ne pas considérer que le 18 juin est une date importante, pas seulement de l'histoire de France d'ailleurs, mais de l'histoire de l'Europe et de l'histoire du monde. Comment ne pas considérer ça? Et vraiment...
comment ne pas considérer qu'on puisse avoir aussi envie de son 18 juin.
Mais oui, c'est ça. Moi je crois que ce jeune gaulliste, il rêvait effectivement, mais il rêvait d'une chose.
On ne vous voit pas à travers le micro, mais cette partie-là, elle vous amuse vraiment, Edouard.
Ah, moi ça m'amusait beaucoup à l'époque. Moi, ça m'amusait beaucoup parce que, j'ai des très, très bons copains gaullistes. Un type comme Pierrot Petit, il a d'ailleurs mis un petit mot très gentil devant mon truc sur le 18 juin et les Martiniquais. Mais c'est vrai que je les charrie un petit peu, quoi.
Mais pourtant, la réponse de De Gaulle va constituer une rupture pour Césaire parce que De Gaulle lui dit...
Oui, De Gaulle lui dit, entre l'Europe et l'Amérique, il n'y a que des poussières. Enfin, et on ne construit pas des États, on ne bâtit pas des États sur des poussières.
Histoire de dire, la Martinique est trop petite pour être un peuple.
Pour avoir un peuple, pour abriter un peuple.
Oui, et en même temps...
En même temps, tu sais, c'est vrai que... Il y a entre le général de Gaulle et les Martiniquais un lien. Honnêtement, il faut voir dire les choses comme elles sont. Quand des types partent quand ils partent en dissidence, la dissidence, c'est la dissidence avec l'amiral Robert, mais ils estiment être des Français. Et ils vont au secours de la France, ils vont au secours de la France. C'est ça. Ça existe. Il n'y a pas que des nègres martiniquais ou des travailleurs là-dedans.
Et puis en même temps, on est dans la période où on va bientôt amorcer, 4 ans plus tard, mai 68, mais c'est aussi l'Algérie, c'est toute la période de décolonisation.
C'est bien avant. L'Algérie, ça a commencé pratiquement en 54. Enfin, ça a commencé en 54, ça a commencé bien avant. Mais enfin, la guerre d'Algérie, véritablement, a commencé le 1er novembre 54. La guerre s'est arrêtée en 62.
Encore les Wallons, là.
Mais il y a les Wallons, il y a toute l'histoire.
Mais il y a aussi toute la décolonisation de l'Afrique aussi.
La décolonisation de l'Afrique,
et,
surtout.
Et De Gaulle vient ici en Martinique, il y a Césaire, poussière d'île, il n'y compte pas, quoi.
Non, en même temps, encore une fois, il n'a pas eu le temps de développer ça, mais... n'importe quel gaulliste sérieux, à mon avis, ne peut pas éviter de lire les textes de De Gaulle sur les peuples d'outre-mer et sur le droit des peuples d'outre-mer, sinon à l'indépendance, ou enfin à être maître chez eux. C'est une réalité.
Et c'est là que Césaire tombe dans un isolement, quoi, en fait.
Oui, c'est ça.
Il n'est pas avec ses amis, ses anciens amis de droite, il n'est pas avec ses amis communistes,
En même temps, c'est vrai que, il n'y a pas de gaulliste nationaliste à la Martinique, enfin, à mon avis.
Mais est-ce que ça doit pas être pour nous, justement, l'occasion, Édouard de Lépine, de faire la différence entre justement les nationalistes qui peuvent être autonomistes, et puis les indépendantistes, parce que il y a quand même une montée pendant cette période-là de toute la partie, de tous ceux qui qui se battent pour l'indépendance, et puis en même temps, Césaire qui affirme son autonomie, qui parle de la question de de l'identité, du respect un peu de cette expression qui est devenue respect pour pays moins, quoi. C'est
Non, mais bon, j'ai été un indépendantiste, bon, non seulement bon, avant 71, c'est-à-dire avant la création du GRS, mais en 65, quand je vais à Cuba, ou en 66, 67, bon, quand il y a la révolution, enfin, les perspectives de révolution en Amérique, bon, je respecte la discipline du parti, mais je suis indépendantiste. Et
Mais justement, alors,
Oui.
revenons sur cette notion,
Oui.
sur cette différence qu'il faut faire entre ceux qui se considèrent comme nationalistes. C'est peut-être aussi une
Mais c'est
notion qui est
pas
importante aujourd'hui.
nationaliste, c'est respecter l'identité nationale, son appartenance à un peuple. À un peuple qui n'est pas, encore une fois, c'est pas des Français badigeonnés de noir, comme disait Césaire. C'est l'identité, ça veut dire que c'est une identité collective. Il y a une nation martiniquaise, il y a un peuple martiniquais, et ce peuple a droit à la responsabilité et à l'initiative. C'est ça la réalité. C'est ça notre certitude. Et c'est une certitude que nous partageons, enfin en tout cas, c'est une conviction que nous partageons, autonomistes ou indépendantistes. Bon, on ne parle pas des départementalistes. Bon, peut-être qu'il y en a d'ailleurs parmi eux qui sont aussi. J'ai l'impression d'ailleurs qu'ils changent beaucoup depuis 2, 3 ans. J'ai l'impression qu'il y a.
Est-ce que c'est pas devenu un peu facile de dire le peuple martiniquais aujourd'hui? Parce que
Mais
entre
oui,
dire.
mais c'est facile, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité. Je veux dire que, bon, il y a 20, 30 ans, enfin, bon, un peu plus que ça, non. Il y a 50 ans, le peuple martiniquais, le peuple, c'était un truc qui n'avait aucune connotation nationale, aucun relent national. Hein, le peuple martiniquais, c'était comme on parle du peuple français ou des trucs comme ça. Mais nous, on était. Enfin, à mon avis, les Martiniquais étaient extrêmement réticents à l'idée de former un peuple. Parce que ils appartiennent à un peuple qui est le peuple français. Les Martiniquais sont persuadés de ça.
Oui, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, enfin,
Jusqu'à
même avec
maintenant.
le 73 et un
Oui,
refus du
c'est ça.
74, hein, c'est bien cette
Oui, il
expression-là.
y a.
Mais vous, Édouard de Lépine, à l'époque, enfin, vous êtes indépendantiste, quoi.
Oui, je
C'est-à-dire
suis
que vous
nationaliste.
êtes nationaliste indépendantiste
C'est-à-dire que je suis un
et donc vous
nationaliste.
êtes dans une
Non,
certaine mesure, dans une
je suis
certaine mesure,
nationaliste, je veux
attendez,
dire.
Édouard, dans
Oui.
une certaine mesure, vous êtes opposé à Césaire à cette époque.
Oui, non, mais je suis persuadé de ça en 1957, quand je vois que Césaire ne fait pas le parti communiste martiniquais comme je l'espérais. Bon, j'ai rompu avec Césaire et je suis resté en dehors de Césaire jusqu'à encore une fois en 1982.
Alors, pourquoi il choisit, à votre avis, ce chemin? Parce que c'est sa pensée profonde ou parce qu'il
Non.
est connecté à la question économique, à la réalité des gens, aux besoins
Non.
d'éducation, aux besoins de développement du pays? Il a dit à De Gaulle.
Oui, d'accord, non, mais surtout, Césaire ne croit pas qu'on va conduire le peuple martiniquais à l'indépendance à coups de pied au derrière, pour reprendre une expression qu'il a utilisée avec moi, en discutant ça. Bon. Je crois qu'il faut que ce soit le peuple qui soit convaincu de ça. Et nous, enfin, l'erreur que nous avons commise, enfin, que moi j'ai commise, c'est de croire que nous pouvions sinon imposer cette idée-là au peuple, mais enfin faire en sorte que le peuple, bon, prenne conscience plus vite.
Ça. C'est-à-dire l'idée des intellectuels plus conscients que le peuple.
On se croyait plus conscient que les autres, on se croyait meilleur que les autres. Et on prenait sinon les autres pour des imbéciles, mais enfin pour des gens qui ne comprenaient pas grand-chose.
Édouard de Lépine, est-ce que, à cette époque où cette idée n'avançait pas, est-ce qu'il vous est arrivé de penser à la lutte armée?
Oui, ça m'est arrivé à un certain moment. Bon, les communistes ont cru que, bon, j'avais pensé beaucoup plus tôt, enfin, ils ont fait semblant de croire. Et en tout cas, ils ont répondu à ma première femme que, bon, moi, je pensais à la lutte armée en 59 et que c'est pourquoi on m'avait foutu en Algérie ou des trucs comme ça. Bon. Mais enfin, je crois que c'était peut-être deux ou trois imbéciles qui avaient parlé de ces questions-là. Mais c'est vrai que, après, bien après, 78-80 à peu près, oui, à peu près, 78, quand j'ai pris peut-être 3%, je ne me rappelle même plus si j'avais eu autant, peut-être 2 ou 3% de voix aux élections législatives de 1978, précisément l'année où Césaire avait parlé des trois voix, le discours des trois voix, des cinq libertés et des cinq libertés. Peut-être que c'est à cause de ça, mais en tout cas, j'étais persuadé à un moment donné que bon, les gens ne comprenaient pas, ils ne comprenaient rien du tout, et que bon, il fallait obliger les Français à foutre le camp, si je veux dire, parce que.
Qu'est-ce qui vous a retenu ?
Non, je crois que c'est assez curieusement d'ailleurs, c'est le fait que les Guadeloupéens aient tenté le truc et puis que j'ai vu les résultats. Peut-être, je crois. Je crois que c'est probablement ça, au lieu de faire. J'ai un truc qui m'a beaucoup frappé. Un jour, je rencontre un copain, mais je ne l'ai pas reconnu. Puis il avait une grosse barbe. C'était un des dirigeants du truc armé, enfin de la lutte armée en Guadeloupe, enfin c'était pour la Guadeloupe aussi, il pensait pour la Guadeloupe, la Martinique aussi. Et à l'angle de la rue Garnier-Pagès et de la rue Isambert, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça.
Du côté enfin, de où il y a le Crédit Mutuel là maintenant.
Oui, oui, un peu par là. C'est après que je me suis rendu compte de ça. Je suis redescendu, il avait foutu le camp. Je suis redescendu. Bon. Et ou peut-être il a cru que je ne voulais pas lui dire bonjour ou un truc comme ça, ou il s'en foutait, mais enfin. Mais c'était vraiment un très beau copain.
Et ça c'est. Il y a eu un embryon d'organisation ou pas?
Non, nous avons commencé, mais c'était ridicule. Ça veut dire, on était. On était une dizaine de types qui étaient bon, prêts à foutre des bombes. Bon, je me rappelle peut-être un provocateur d'ailleurs, français, qui était venu, bon, à qui je reprochais de n'avoir rien foutu au mois de décembre 59 à la Martinique. Il m'a dit, tu sais pas ce que j'ai à faire. C'est devenu un très grand journaliste d'ailleurs à Libération. Et il m'a dit, tu sais pas ce qu'il faut à faire. Il m'a dessiné sur un papier sur mon bureau. Il a dessiné la gendarmerie. Bon, c'est comme ça. Tu fais une bombe là, tu fais une bombe là, tu fais tout. Et puis, bon, ça y est. Bon, je te fous la première page du journal, l'Express, ou Libé, je ne m'en rappelle plus. Je te fous la première page. Bon, comme ça. C'est un type peut-être un peu provocateur, mais enfin.
C'est ça. Le journaliste qui organisait son propre événement, quoi, en fait.
Oui, voilà.
Mais vous, finalement, vous avez choisi de.
Non, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ça en 82, peut-être plus sérieusement que je n'avais fait.
Vous avez été indépendantiste jusqu'à quelle année? Ouais, parce qu'au bout d'un moment, vous avez abandonné cette idée d'indépendance. Oui, en fait, quand je dis que vous l'avez abandonné, vous êtes resté nationaliste, je crois, mais.
J'étais un nationaliste avant, j'étais pas du tout nationaliste. Hein. Moi, à l'époque, je me foutais de faire la révolution à la Martinique plutôt qu'à Cuba dans n'importe quel pays, n'importe où nous surprenons à la mort. Pourvu que d'autres mains se tendent pour pouvoir poigner nos fusils, d'autres voix se lèvent pour réclamer l'indépendance. Bon, c'était ça, je récitais ça au môme.
Oui.
Je récitais ça aux jeunes gars à qui je parlais tout à l'heure.
Mais finalement, vous avez pris une autre route, quoi. Vous avez choisi
Non,
de...
premièrement, j'ai commencé à réfléchir d'abord quand je suis rentré au parti, au
Au
PPM.
PPM, oui.
Oui, moi, je suis entré au PPM en croyant que je pourrais amener le PPM à l'indépendance,
D'accord.
à l'idée d'indépendance. Bon. Et j'ai mis.
Mais vous n'avez pas été le seul, hein, à tenter de
Probablement,
rendre
probablement.
le PPM de le rendre de l'amener vers l'indépendance, vers cette idée
Oui,
d'indépendance.
probablement, il y a des camarades probablement qui sont venus aussi au PPM avec cette
Et
idée.
pourquoi ça n'a jamais pris? C'est parce que vraiment le PPM, à votre avis, n'est pas
Non, non,
indépendantiste.
non, pas du tout. C'est parce que les gens prennent conscience très vite quand ils commencent à militer de la réalité du pays. C'est-à-dire que bon, c'est pas par connerie ou c'est pas parce qu'on est des imbéciles qu'on n'arrive pas à convaincre le peuple. Mais que bon, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on n'arrive pas à montrer aux gens comment on va créer des emplois. Moi, j'avais un rêve, c'était de faire du Robert ou de la Martinique une île essentiellement
Ouvert.
l'économie bleue. Et bon. On croit que c'est enfin, sinon facile, mais que c'est possible et qu'on va pouvoir bon, développer un port, créer des emplois, etc. Puis on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes.
Et donc, quand vous vous êtes rapproché à cette époque-là du Parti progressiste martiniquais,
Oui,
avec vos idées indépendantistes, alors à la rigueur,
bien sûr.
vous êtes à ce moment-là devenu autonomiste.
Oui, je suis devenu plus autonomiste, oui. Je pense que. Bon, je pense que à une époque, j'ai cru à l'autonomie réellement, au PC aussi. Hein.
Alors, pour vous, justement, l'autonomie, c'est quoi, précisément?
Non, l'autonomie, c'est la responsabilité des affaires locales. C'est-à-dire qu'on appartient à un grand ensemble, donc on respecte les règles, on respecte le droit, mais en même temps, sur les questions, je sais pas moi, les questions qui ont particulièrement intéressé, les 50 pas géométriques, le logement, l'habitat, les trucs comme ça, concernant ce pays,
Il peut y avoir une décision locale, quoi.
il peut y avoir une décision locale.
Bon, vous n'avez pas l'impression qu'on est quand même un peu déjà dans ce cadre-là,
Non,
avec,
certainement, certainement, ça s'est
même
amélioré par
si,
rapport,
oui.
ça s'est amélioré par rapport à, disons, à l'époque, y compris par rapport à 82 ou 83.
Édouard de Lépine, il y a une question qui me
Oui.
vient, j'ai envie de vous la poser presque par provocation.
Oui.
Vous avez été un indépendantiste,
Oui.
hein, je veux dire un indépendantiste convaincu.
Oui.
D'accord? Je suppose qu'il y a des gens, d'autres Martiniquais, qui ont été des indépendantistes ou
Oui,
qui
bien sûr.
sont des indépendantistes, qui se disent indépendantistes convaincus. Je pense en
Oui,
particulier à des gens comme des gens qui sont au MIM. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, confrontés à la réalité économique, ces gens seraient toujours indépendantistes?
je pense qu'ils peuvent l'être. Je pense qu'ils peuvent l'être. Mais que, bon, leur problème, comme le mien, aujourd'hui, c'est de trouver le truc qui nous permet d'avancer le plus vers la responsabilité dans nos propres affaires. C'est-à-dire que tout ce qui est bon à renforcer, qui est de nature à renforcer notre aptitude à prendre des décisions nous concernant sur nos problèmes, etc., c'est bon pour le pays. Je pense qu'il n'y a plus à mon avis, je me sens en tout cas probablement plus proche de Marie-Jeanne que de mon plaisir.
Alors, Édouard de Lépine, puisque nous y sommes, à un moment donné,
Oui.
chaque fois nous terminons nos entretiens par un peu de réalité.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le PPM et le MIM, qui sont,
Oui,
moi
bien sûr.
je les appelle les frères cousins, d'accord? Alors,
Oui, peut-être.
comment expliquez-vous
Non,
aujourd'hui
je
qu'il y ait un
probablement.
tel schisme entre ces deux groupes,
Non,
quoi?
probablement il y a chez les uns et les autres d'ailleurs une conception du pouvoir ou une envie du pouvoir qui est telle que bon, ils ne croient pas possible ça, mais je crois que cette idée du peuple martiniquais tout entier, de l'ensemble du peuple martiniquais, y compris par conséquent de gens qui peuvent ne pas être d'accord sur des choses importantes, qui peuvent ne pas être d'accord, mais qui sont d'accord sur un certain nombre de choses. Cette idée, c'est une idée fondamentalement césarienne. Rassembler le plus large contre le plus étroit. Rassembler le plus large contre le plus étroit. C'est vraiment ce qui est, à mon avis, l'enseignement principal de César. À mon avis.
C'est un peu ce qui s'est fait. Sur la dernière élection de décembre 2015.
Non, parce que la doctrine, si je puis dire, de APMN, comme la doctrine de Grande Assemblée actuellement, ne me paraît pas suffisamment claire sur ça. Je ne crois pas.
J'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous pouvez répéter ?
Non, APMN actuellement, c'est un groupement de partis, ou même de partis ou d'individus. Parce que, bon, et le maire du Lorrain, ou bien madame... bon, je sais d'ailleurs pas si elle est toujours là-dedans, puisqu'elle est maintenant en marche, madame Maignan. Non, je sais pas.
Madame Maignan, elle était en marche, je sais pas si elle s'est arrêtée. Mais enfin, bon, je dis aujourd'hui... dans la création du mouvement local, elle n'était pas représentée, mais enfin bon.
Pour l'instant, nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, il faut qu'on essaye de se mettre d'accord avec les gens sur cette idée, encore une fois, de responsabilité locale. Et bon, il me semble que c'est possible.
Mais comment on peut se mettre d'accord, ou du moins, à quoi sert-il de se mettre d'accord sur une responsabilité locale si on ne sait pas dans quel sens on veut aller? Parce que la dernière fois, non, je veux dire, si on tient compte des vrais problèmes de la Martinique, oui. On en a parlé. À mon avis, le premier, c'est le problème du chômage.
Oui.
50 000 chômeurs, quand même, c'est pas peu.
Oui.
Vous qui connaissez bien toutes ces affaires, vous savez que lorsqu'on est au chômage, on ne peut même pas commencer son contrat social, quoi.
Oui.
Bon. Ensuite, l'encadrement de la jeunesse.
Oui. Oui, mais c'est des problèmes qui sont éternels. C'est pas.
Mais ça veut dire. Oui, mais ça veut dire quoi? Oui, mais ça veut dire quoi, Edouard? La politique est quand même là pour résoudre des problèmes fondamentaux.
Résoudre. Je ne sais pas s'il y a un jour une possibilité où on va résoudre l'ensemble de ces problèmes, mais améliorer cette situation, améliorer la question du chômage, créer des emplois, bon, ça doit pouvoir se faire. Mais ça ne peut pas se faire avec une petite fraction de la population ou des fractions qui se combattent en même temps comme ça. Ça veut dire que ça ne peut pas se faire sans les capitalistes, ça ne peut pas se faire sans les gens qui ont du fric, par exemple. Il faut pouvoir associer à la fois les gens qui sont dans le besoin et puis les gens qui ont les moyens à mettre en œuvre pour créer des emplois. Il faut arriver à ça. On peut pas considérer que, bon, autrement dit, moi je crois que si j'ai commis une erreur grave dans ma vie, c'est de voir que la lutte des classes était véritablement vraiment la chose absolument inévitable, absolument indispensable, enfin la théorie de la lutte des classes et la conquête de pouvoir par l'élimination d'une classe par l'autre. Moi je crois que c'est, si j'ai commis une erreur dans ma vie, c'est celle-là.
Vous n'êtes pas en train de devenir maconiste là, Edouard?
Je ne suis pas en train de devenir, je ne crois pas que je suis devenu macroniste, parce que j'ai certainement pas créé un parti de la République en marche, à la Martinique, je n'irai certainement pas dans, mais je pense que le PPM doit avoir, à l'égard de la République en marche, une politique beaucoup plus souple, beaucoup plus, me semble-t-il, nous pouvons parfaitement être apparentés à la République en marche, sans être lié à si peu que ce soit aux structures de la République en marche.
Mais à vous écouter, vous faites vraiment une priorité, enfin même, le mot priorité ne convient pas, disons qu'il y a pour vous la stratégie pour obtenir le pouvoir et la stratégie d'améliorer la situation.
Il y a l'une et l'autre, et c'est deux choses qui vont ensemble.
Mais vous semblez être principalement préoccupé, notamment sur la difficulté qui est entre les partis en Martinique, sur cette manière de conquérir le pouvoir en réalité.
Non, ce n'est pas la manière de conquérir le pouvoir, c'est la manière d'exercer le pouvoir. D'exercer le pouvoir, c'est une fois. On ne conquiert pas le pouvoir pour être président de l'Assemblée ou bien pour avoir deux députés au lieu de quatre. Bon, on conquiert le pouvoir pour prendre des mesures concrètes concernant la création d'emplois, concernant la création d'entreprises, concernant la gestion de l'école, concernant bon, la formation de la jeunesse, etc. C'est un truc. C'est ça la réalité.
Oui. Alors,
Oui.
Edouard, je suis d'accord avec vous. Je suis
Oui.
d'accord avec vous sur toutes ces questions. Mais cette semaine, je réalise un éditorial sur ces questions-là. Et tous ces points dont vous nous parlez, dont nous parlons et sur lesquels nous sommes d'accord, qu'ils soient par exemple la question de l'emploi, la question de l'éducation,
La question de l'éducation, c'est un
de
problème
l'encadrement de la jeunesse,
notable.
la question
La
de,
formation professionnelle.
oui, la question de la formation professionnelle, la question de la sécurité,
Oui,
d'accord, puisque vous
oui,
voyez vous-même que
oui.
même si ça s'améliore, on est quand même dans
Oui,
une
bien sûr.
insécurité grandissante. Tous ces points
Oui.
sont des responsabilités de l'État.
Non,
Puisqu'en oui,
mais il faut. Mais non, pas du tout. Mais
non, mais
pas du. C'est
attendez,
ça le
vous,
problème.
oui,
C'est ça le
non,
problème.
mais
C'est si on.
je peux
Si on a.
terminer. Attendez,
Oui,
Edouard,
oui.
attendez. L'organisme qui s'occupe
Oui,
de la question
mais
des
je m'en
emplois.
fous de l'organisme qui s'occupe. Je veux qu'on crée un organisme ici qui s'occupe de la création d'emplois. C'est pas, je ne vais pas attendre que le ministre du Travail ou quelque ministère que ce soit me donne un ordre pour faire telle ou telle chose. Je veux pouvoir décider à la Martinique de ce que je vais faire sous ça. C'est ça le problème. C'est aussi simple que ça.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque
Non,
c'est
c'est pas le
l'État.
cas. Mais non, il faut se battre pour ça. Alors, est-ce qu'on bat? Est-ce qu'on se donne?
L'éducation, par exemple, aujourd'hui,
Ici?
je veux dire
Mais non,
l'éducation.
l'éducation. Bon, moi, bon, vraiment, ça me paraît être vraiment, peut-être effectivement le problème essentiel, le problème fondamental. Mais je veux dire que nous avons consacré tellement de temps et tellement de fric à ça. J'ai un bouquin qui est pratiquement prêt, en fait, sur l'histoire de l'éducation ici, c'est-à-dire de la fin du 19e, en fait, la création du lycée Schœlcher, bon, disons les années 80. Bon, sinon, j'ai fait un grand article là-dessus, sur une revue qui est paru il y a quelque temps, mais c'est un résumé là-dessus. Moi, je crois que c'est un truc. C'est pas, on va pas demander aux Français de réfléchir là-dessus pour nous, quand même.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, même si on a la responsabilité de la formation professionnelle qui est faite par la région, enfin qui a des budgets de la
Mais
région, mais
oui.
enfin vous voyez bien qu'aujourd'hui, le président Macron, sur la question de la formation professionnelle, c'est lui qui fait la réforme, c'est lui
Oui,
qui vous
mais
comprenez?
bon, non,
Donc
non, je suis envoyé chez Macron ou les autres sur ce problème-là. Je ne pense pas que Macron, si intelligent qu'il soit, si désireux qu'il soit du bien-être des Martiniquais ou de la formation des Martiniquais, puisse savoir mieux que les Martiniquais ce qu'il faut, à mon avis. Mais je crois qu'effectivement, nous ne faisons absolument pas l'effort qu'il y a pour que sur ce plan-là, au moins, sur le plan de la formation, parce que honnêtement, j'ai vu le spectacle de camarades venus la semaine dernière pour couper des trucs ici, six types dans une équipe, bon, pour couper deux cocotiers. Vous avez vu dans quel état ça se trouve? Non, faut que les gens reçoivent une formation sérieuse dans une école de formation. Nous, actuellement, nous contentons de ça. Nous offrons un travail, nous avons des emplois aidés ou des trucs quelconques qui permettent de payer un type, y compris à regarder les autres travailler. Bon, nous considérons que ça y est, on a fait le boulot. Non, je crois qu'il faut réfléchir à ça. Bon, moi, quand je vois ce qu'on entend par la formation politique, voilà, le copain qui m'a téléphoné là tout à l'heure, je lui parlais de ça. Bon, il y a 11 ans, je proposais qu'il soit changé, mais sur un programme de 100 heures de cours, 100 heures de cours sur 10 mois, c'est-à-dire 10 heures de cours par semaine. un programme de santé, et je proposais qu'il soit responsable de l'enseignement de la philo pendant bon, une vingtaine ou une trentaine d'heures, ou rien que la philo pour une trentaine d'heures. Bon, c'est un truc qui paraît incroyable parce que aujourd'hui, bon, d'abord il y a presque plus de profs de philo dans les lycées, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui manque le plus. Il y a plus ça.
Oui. Bon, c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, la question du niveau de chaque chose. C'est-à-dire presque à la rigueur, la place que prend la médiocrité.
Ah oui. Moi je crois que c'est un truc invraisemblable. Qu'aujourd'hui, on puisse avoir des journalistes qui n'ont jamais rien appris sur le journalisme ou qui ne savent pas ce que c'est qu'un journal. Moi, je n'ai pas retrouvé ça, mais j'avais conservé ici... pendant très longtemps, un petit journal, un petit de formation de journaliste que j'avais acheté en 1951, c'est-à-dire il y a 50 plus 17 ans, 67 ans, 66 ans, j'avais acheté ça parce qu'il fallait commencer par lire ça avant de venir à l'école. Et bon, on était en vacances. Moi, j'étais en Cagne, mais bon, pendant les vacances, je passais deux heures par jour sur la formation. 2 heures sur la formation de journaliste. 2 heures par jour. Et j'étais probablement assez bon élève parce que, bon, je me rappelle que j'ai eu même des propositions pour aller faire un reportage sur les socialistes italiens. En 1952-53, je m'en rappelle.
Et vous dites aujourd'hui que quand vous observez ne serait-ce que la presse locale ou la presse qui est disponible, vous êtes resté sur votre faim.
Ah mais oui, moi je suis effaré. Je suis effaré de voir la négligence des mecs. Bon, et puis le contenu des articles. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Moi j'ai, je pense, une demi-douzaine de bouquins ici sur la formation de journalistes. Si on ne les a pas volés d'ailleurs, parce que vraiment, ces jours-ci, il me semble que je perds tellement de bouquins ici que...
Vous ne les trouvez pas ou bien ils disparaissent?
Non, peut-être que c'est foutu n'importe où aussi. Bon, il y a un mec qui, Camille m'a dit que c'est moi qui... Fous ça n'importe comment, et puis je ne retrouve pas, peut-être, ou jamais. Mais je pense que c'est peut-être parce que je montrais ça à des mecs ou un truc quelconque, et puis bon, je n'arrive pas à...
Mais Edouard, est-ce que ce n'est pas un peu de nostalgie? Parce que, vous savez, on a un peu cette tendance aussi, chaque fois qu'on maîtrise un peu moins ces choses, à dire qu'elles ne conviennent pas, qu'elles ne sont pas, ce que je veux dire... Aujourd'hui, vous avez vu à quelle vitesse va l'actualité, les moyens.
Non, je ne propose surtout pas aux gens de reprendre plus ou moins simplement ce que je dis. Je dis, ce que j'ai proposé, par exemple, de mon parti, c'est qu'on désigne un petit groupe de camarades, de 4-5 types. 4-5 types, on propose ça. On écrit, enfin, on se met mettant 2-3 mois ensemble, 4-5 mois, à raison de... 2-3 réunions par semaine, de 2-3 heures par semaine. On propose au comité national une séance de travail, c'est-à-dire soit une journée, soit 2 ou 3 journées de travail.
Un séminaire.
Et après, le séminaire décide. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais imposer quoi que ce soit. Je veux qu'on discute de ça. 3-4 types. Qu'on discute de ça, qu'on propose un bureau politique et une dizaine de types, et puis que le comité national ensuite discute de ça. C'est-à-dire que, bon, on est, disons, une centaine d'heures pour préparer une centaine d'heures de cours. Pour préparer une centaine d'heures de cours, c'est pas un truc facile. C'est pas un truc facile. Et je ne viens pas avec des idées toutes faites. J'ai quelques idées là-dessus, mais il faut voir ce que ça donne. Le camarade qui vient là, je lui ai dit de me préparer ça par écrit de façon à ce que je puisse répondre, je puisse réfléchir de façon sérieuse.
Il est clair qu'on n'écrit pas assez, que ça n'écrit pas assez, parce que là, par exemple, sur les textes que vous avez étudiés, les 460 textes que vous avez trouvés de Césaire, ils ont quand même été, ils ont été écrits, ils ont été pensés, ils ont été réfléchis.
Ah ben
Et
oui,
aujourd'hui, la mémoire, elle est là, quoi.
Contrairement à ce que les gens pensent, moi, je crois. Bon, j'ai jamais vraiment, véritablement compris comment Césaire pourrait faire. Parce qu'il faut lire ça pour se rendre compte. Hein. Il faut lire le travail que ça a pu demander au type. Bon, mais c'est un bosseur. Je ne connais personne. Je ne connais. Enfin, Dieu sait, j'ai connu. Bon, j'ai fréquenté des mecs, quand même, des caïds, hein, bon, intellectuels. Je ne connais personne qui ait pu produire ça. Et je suis sûr qu'il n'y a pas la moitié des textes, des discours de Césaire, dans ces 460 textes qu'il y a là. Il n'y a pas la moitié. Mais c'était un mec qui avait une capacité de travail qui était absolument incroyable. Le type écrivait sur des petits bouts de papier. Il sortait de sa poche parfois. En tout cas, on le voyait sortir un petit bout de papier. Et puis, bon, il restait à discuter pendant 3-4 minutes là-dessus, sur le petit bout de papier. Et puis, bon, probablement après, il écrit son texte.
Il vous fascinait, César.
Ah oui, non, honnêtement, oui. C'est la réalité, je veux dire, chaque fois que bon, je rencontre ce type, c'est un truc assez extraordinaire. C'est un truc assez extraordinaire. Justement, où est-ce qu'il prend parfois, il te foutait à la fête aussi, hein. Moi, quand je venais avec le grand idée ou des trucs comme ça sur la formation, bon, il me foutait à la fête, hein. Bon, il rigolait. Il rigolait. Mais je pense que c'est vrai que je pense que nous négligeons ça maintenant en politique. Bon, les choses ont changé. Je ne veux pas imposer les méthodes de travail d'il y a 30, 40 ans. Enfin, plus 30, 40 ans, moi. Quand je dis 51, c'est les premières écoles de forme que j'ai suivies, étant 51. Mais, bon, c'est-à-dire il y a 66 ans, mais j'en ai suivi quelques-unes des écoles de forme. Bon, je pense que, bon, maintenant il nous faut réfléchir à la situation réelle d'aujourd'hui. Moi, on me demande aujourd'hui quel est le niveau des journalistes. Je suis incapable de trouver ça quelque part. Je suis incapable. On ne progressera pas si on ne voit pas le niveau de la presse d'ici, que ce soit de presse parlée ou écrite. On ne verra pas. On ne se rend pas compte. Pour moi, c'est un truc extrêmement pénible de lire les articles. C'est un truc extrêmement pénible. Moi, en tout cas, bon. Je crois qu'il nous faut faire un gros effort là-dessus. Mais moi, je crois que c'est le il n'y a pas d'école de journalisme. Moi, c'est un truc qui va jusqu'à il y a 10-15 ans, il me semble que ça existait encore. Hein.
Enfin, il y a quand même des écoles, hein. Il y a de vraies écoles. Pas forcément à la Martinique.
Ah, non,
disons
non,
qu'il y a
non.
eu des.
Non, mais je parle de Martinique. Bon, il y a une dizaine d'années, bon, c'était peut-être pas très très fort ce qu'il y avait, notamment en KMT, là-dessus. Mais il y avait une école de forme là-dessus. C'était dans les locaux de l'hôpital civil, là où est KMT aujourd'hui. Bon, maintenant, bon, peut-être qu'il y a des trucs quelque part, mais en tout cas, j'ai interrogé deux types.
Non, les écoles de journalisme aujourd'hui, elles sont à Paris, quoi.
Oui, c'est ça. Même si
KMT continue toujours de former les uns
proposé,
et les autres.
J'ai proposé à Ludon, à Jean-Philippe Ludon, c'était pour un grand journaliste, pour un bon journaliste, et j'ai proposé à Jean-Marc Parti. Enfin, je ne suis pas sûr de ne pas tromper là-dessus. J'aurais proposé d'organiser un cours pour ça. Faire un cours une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, puis de me faire des propositions de prix, quoi, parce que je ne leur demande pas de me faire des trucs gratuits. Mais de voir comment on peut organiser un truc pour 5-6 journalistes. Tu sais,
je... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Edouard, que sur la question de l'information à la Martinique, il y a un véritable problème. Hein. D'abord, moi, ce que je considère, je dis souvent que moi, je commence par dire que je suis pas journaliste. Je tiens un blog et j'essaie de trouver des angles, hein, d'approche ou d'être un petit peu provocateur. C'est vrai, mais surtout d'apporter des compléments d'information. Par exemple. Je comprends bien que nous, là, ça fait 3 fois ou 4 fois qu'on se rencontre. On va encore se rencontrer 5 fois. Ça veut dire que derrière, pour la préparation, pour les différents éléments, nous sommes à presque 15 heures, quoi. Bon, je veux dire, c'est palpitant parce que moi, ça m'intéresse et compagnie. Mais aujourd'hui, l'entretien que nous avons, il fait plus d'une heure. Aujourd'hui, c'est pas un format radio. Or, si on veut connaître les uns et les autres, connaître l'actualité, comprendre ce qui se passe, il faut du temps, comme vous me disiez, sur les textes que nous avons là. Il faudrait presque les lire pour comprendre tout. Donc, ça veut dire aussi qu'on est dans des formats. On est dans 1 minute 30, quoi. L'info, c'est 1 minute 30 aujourd'hui. Et il y a quelques magazines qui se font parce qu'il y a des journalistes ou bien il y a des rédactions qui veulent bien rajouter un peu d'éléments. Mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas assez d'informations, Martine, et que sur ce point, je suis d'accord avec vous.
Non, mais ça, c'est sûr. Mais ça, je veux dire qu'on ne va pas la résoudre avec la formule que nous avons adoptée, nous, en ce moment. Bon, il faut, d'abord, encore une fois, mettre 4 ou 5 types. Bon, tu viennes là, avec Camille, avec 2 ou 3 types encore, on voit ça avec un autre groupe de gars, comment on va organiser.
Des gens diversifiés, des gens qui ont un peu d'expérience, un peu de bouteille.
Qui ont un minimum d'expérience de la presse, et puis voir comment on peut organiser ça.
Voilà. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une vraie différence à faire aussi à la Martinique entre les faits d'actualité et l'information. Parce que ce n'est pas du tout, à mon sens, la même chose. L'actualité, les gens sont friands de ça. Je vois moi-même certains articles. Il suffit qu'il y ait 2 coups de feu. C'est une plus forte audience que d'essayer de comprendre l'idéologie de Césaire. Hein. Bon, je veux dire, les gens aussi...
Mais je ne suis pas sûr d'avoir raison. Surtout, je dis qu'il faut prendre le temps de réfléchir à cette question-là, et non pas comme un individu isolé, comme je suis en train de le faire depuis 10 ans. Bon, je fais ça avec, peut-être de temps en temps, un camarade passe, etc. Bon, mais j'ai rencontré, pour la formation, j'ai rencontré déjà 3 ou 4 camarades ici. Moi, c'est nul parce qu'on a aucun espèce de programme. On n'a pas un truc qui est bien calé, en se disant, on va prendre 8 heures pour faire ça. On va comment intéresser les gens à la politique, par exemple, ou bien comment intéresser les gens à la question du travail, comment intéresser les gens à Macron, ou un truc comme ça. Bon, il te faut réfléchir à ça, et il faut qu'on soit plusieurs.
Absolument. Édouard de Lépine, on va arrêter notre entretien pour aujourd'hui. Nous sommes, on le rappelle, on va se revoir, hein, puisque c'est pas terminé. Nous sommes en 1971. Il nous restera à voir la période de pratiquement déjà jusqu'à 81, et puis après pour le décès de Césaire. Cette période est aussi très importante, hein, la question du moratoire et compagnie, parce qu'il y a pas mal de discussions sur ça.
Oui, c'est une question importante. Mais il faut voir un peu le contenu du moratoire. Moi, j'ai l'impression que les gens qui en parlent, y compris Camille, hein, je lui fais observer.
Vous voyez souvent Camille. Camille.
Oui, c'est le type que je vois probablement le plus souvent.
On parle de Camille Chauvet, bien.
Oui, je pense. Oui. On se voit assez souvent. Pas assez souvent, probablement, parce que comme lui, il est plus proche, enfin, en tout cas, plus disponible pour aller au parti. Bon, moi, le problème du déplacement C'est-à-dire le problème de me déplacer actuellement, c'est un problème. On m'a ramené ma bagnole cet après-midi. Je roulais avec une bagnole qui aurait pu me casser la gueule pendant...
Vous conduisez toujours, Edouard?
Je conduis. Mais
rappelez-nous votre âge.
85, 86 bientôt, dans 2 mois.
Quand vous déplacez, vous allez sur Fort-de-France, vous allez...
Non, sur Fort-de-France, je n'ai pas été là depuis quelque temps.
D'accord. Vous arrivez jusqu'où?
Au bout du Aubert.
D'accord. C'est pas mal, c'est déjà bien.
J'étais au Saint-Esprit récemment.
Ah bon? Vous avez conduit? Vous avez conduit, vous?
J'ai conduit tout seul. En plus, il y a le problème de Wayne. Parfois, on n'entend rien. Et j'avais pris rendez-vous avec une fille, la responsable de la bibliothèque du Saint-Esprit. Et bon,
Vous avez retrouvé la route, Edouard?
Hein?
Vous avez retrouvé la route?
Là?
La route, vous l'avez retrouvée?
Oui. Non, c'est des routes que j'ai fréquentées. Mais j'ai créé un balisier, une cellule, un groupe de travail politique. Dans 32 communes sur 34. Il y en a 2 sur lesquelles je n'ai jamais rien eu. C'est à Fonsenny et à Montlevers. 2 au total. Mais que ce soit Grand-Rivière, que ce soit Prêcheur, que ce soit Sainte-Anne, que ce soit.
Vous êtes allé partout, quoi.
Ah ouais. J'ai fait 32 communes de la Martinique.
Ok, Edouard, Edouard de Lépine, merci de nous consacrer tout ce temps. On se retrouve la semaine prochaine, si vous êtes d'accord.
Ok, d'accord, pas de problème.
À bientôt.
Allez, bientôt.